Vivre en commun, l'émission de radio.
Donc voilà, nous allons poursuivre cette émission avec une nouvelle chronique autour de l'anthropologie avec Bertrande qui est nouvelle venue dans le commun et dans l'émission, nouvelle adhérente et déjà dans le studio. Alors bonsoir Bertrande.
Bonsoir.
Qu'est-ce que tu voulais nous présenter aujourd'hui ?
Alors en tant qu'apprenti anthropologue, je m'intéresse particulièrement aux relations qu'entretiennent les humains avec la nature. Du coup, j'avais envie qu'on évoque notamment en anthropologie la communication entre les humains et le monde du non-humain. Et pour ça, j'avais envie de vous faire partager quelque chose sur Edward O'Conn, qui est un anthropologue amazoniste dont on entend beaucoup parler en ce moment dans le milieu de la recherche. En France, son livre « Comment pensent les forêts ?» vient d'être traduit en fait récemment cette année. Et il y a eu notamment là, le 2 mars, une conférence au Quai Branly sur ce livre-là. Son livre, il l'a écrit après sa recherche ethnographique auprès des Runa du haut Amazon équatorien. Et en fait, son travail, c'est d'explorer les manières dont les Amazoniens interagissent avec les diverses créatures qui peuplent donc un des écosystèmes les plus complexes au monde. Et en fait, à travers son travail, il va questionner la méthode anthropologique parce que, justement, il invite les ethnographes à porter plus leur attention sur la relation que nous tissons avec d'autres êtres qui ne sont pas des humains, donc, mais qui sont donc qui font partie du non-humain, donc les plantes, les animaux, les arbres et même des êtres plus spirituels, voilà. Donc, il propose vraiment à l'anthropologie de porter une nouvelle manière de concevoir le monde et donc un monde que nous partageons avec d'autres sortes d'êtres. Donc son livre, il a été publié aux éditions Zone Sensible en français, Comment pensent les forêts. Et si vous voulez plus d'informations dessus, vous pouvez aller visiter le site zone-sensible.org. Donc là en fait, on va vous passer du coup une petite présentation du magazine Géo, qui a rencontré l'auteur lors de son passage justement au Quai Branly, donc le 2 mars 2017. Voilà.
3 minutes avec l'anthropologue Edward O'Conn, Quai Branly, le 1er mars 2017. Pourquoi vous intéressez aux forêts et pas aux steppes, arctiques ou aux savanes ? Je me suis concentré sur la forêt amazonienne parce que c'est l'écosystème le plus dense et le plus complexe sur Terre. Je vois les forêts comme des tissus d'êtres vivants qui pensent et communiquent ensemble. Pour étudier le genre de pensée qui émane de l'ensemble des êtres vivants, rien de mieux que la forêt tropicale. Donc, pour voir comment pensent les forêts, qui est le titre de mon livre, je me suis rendu dans la forêt la plus riche et la plus complexe. Parfois, c'est plus facile de voir et de comprendre certains phénomènes dans des lieux où ils sont concentrés et amplifiés. Une fois que vous avez observé la pensée sylvestre en Amazonie, vous pouvez l'observer partout. Qu'entendez-vous par une anthropologie au-delà de l'humain ?
Anthropologie est un field that arose.
L'anthropologie s'est développée comme l'étude des humains, en partant de ce qui nous rend exceptionnels et différents. Elle s'appuie sur nos attributs spécifiques, le langage, la culture, nos sociétés, pour fabriquer son cadre et ses outils d'analyse. Bref, l'anthropologie étudie les humains à la lumière de ce qui fait de nous une espèce à part. Le problème, c'est que ça nous sépare du reste du monde. Ce que je propose, c'est de se pencher aussi sur la manière dont les non-humains nous voient, interagissent avec nous et font de nous ce que nous sommes. Y a-t-il beaucoup de peuples qui, comme les Runa d'Avila, considèrent que les forêts pensent ?
That is changing with...
Oui, bien que ça se raréfie avec la déforestation, l'arrivée des routes, les activités minières, pétrolières, mais il reste des endroits comme Sarayaku, auquel Géo a d'ailleurs consacré un reportage, où les gens vivent en symbiose avec les êtres de la forêt et se battent pour préserver ce mode de vie. Vous vous définissez comme un diplomate cosmique. Qu'est-ce donc ? D'une certaine manière, j'ai appris à penser avec les forêts. Les forêts génèrent des idées. Mais il faut apprendre à les entendre et à les transmettre à l'extérieur. Donc, tel un diplomate, je navigue entre ces différents mondes. Je traduis et je rends visible, comme ici à Paris, ces pensées venant d'autres mondes. Donc, un diplomate cosmique, c'est comme un diplomate traditionnel, à la différence qu'il fait le lien entre humains et non-humains, un peu comme un
chaman.
Ça n'a rien de particulièrement exotique, c'est juste une manière de penser.
Donc voilà pour cet extrait d'Eduardo Cohn. Bertrand, qu'est-ce qui t'a touché dans cette conférence où tu étais présente hein, là, c'était un petit interview, mais qui précédait ou qui suivait, je ne sais pas, une conférence de cette personne-là au Cabranly. Qu'est-ce qui t'a touché dans cette intervention et pourquoi un peu tu as voulu nous la passer ?
Eh bien, en fait, moi, je soutiens vraiment la démarche ethnographique d'Eduardo Cohn et l'ambition qu'il a pour l'anthropologie d'inclure le non-humain dans les recherches anthropologiques où, comme il le dit dans ce petit extrait, l'anthropologie s'est beaucoup focalisée sur l'humain comme quelque chose de particulier, un peu à part, parce que c'est une discipline qui est quand même née au sein de l'Occident, où on a un peu cette tradition de séparer ce qui est du domaine de la culture et ce qui est du domaine de la nature, qui se sont vues un peu comme des choses opposées. Bon, ça, c'est en train de changer depuis quelques années déjà, mais lui, il pousse vraiment la chose très loin en voyant tout le monde du non-humain comme des interactants potentiels, au même titre que les autres humains. Du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est l'idée d'inclure tout ce monde-là dans le monde culturel. Les amazonistes, c'est ce qu'ils font, hein, c'est inclure la nature vraiment dans ce que nous, on pourrait plutôt considérer comme la culture. Et j'espère, moi, je compte participer un peu à ce type de démarche anthropologique qu'anthropologue, c'est un peu ce que je voudrais faire c'est ce qui m'intéresse porter, comme il dit, la vision du monde, dire que nous partageons vraiment ce monde avec d'autres êtres, que c'est pas juste des humains qu'on fait vraiment, on est la nature comme au même titre que tout le reste du monde naturel.
Alors tu souhaitais nous passer dans la même thématique une deuxième intervention, donc ce coup-ci c'est une petite conférence.
Oui, voilà, alors c'est une conférence de TED, la plateforme de conférence, et donc là ça va être plutôt sur le chamanisme, donc c'est un portrait qui m'a assez marqué, une conférence qui m'a assez marqué aussi et qui reste dans le thème, où c'est Corinne Sombrin qui raconte un peu son expérience. Elle, c'est une reportrice pour BBC World Service, et en 2001 elle a fait un reportage en Mongolie où en fait elle a découvert qu'elle était chamane, et du coup après 8 ans de formation elle est devenue la première femme occidentale à accéder au statut de Udgan, qui est donc le statut d'une femme qui a reçu un don de chamanisme. Et des suites de cette expérience, elle s'est consacrée à des recherches scientifiques sur les états modifiés de conscience, donc notamment sur la transe. Et le titre de l'émission, c'est savoir si la transe chamanique est due à un état de conscience particulier du cerveau, en fait. Et donc c'est particulièrement intéressant par rapport à ça. Voilà.
Vivre en commun, l'émission de radio.
Eh bien, je vais vous raconter comment le hasard m'a frappée et surtout comment il m'a conduite à essayer de savoir si la transe chamanique était une capacité du cerveau ou pas. Donc, nous commençons en 2001, dans cette région de la Mongolie. Je dois faire un reportage pour la BBC sur le chamanisme et Nara, une amie, m'accompagne chez un chaman qui s'appelle Balchir. Il doit faire une cérémonie. Alors, le soir tombe, des voisins arrivent, ils ont de nombreux problèmes et certains d'entre eux veulent savoir pourquoi ils ont ces problèmes. Alors, ce que je sais du chaman à l'époque, c'est qu'il est une sorte de lien entre le monde des humains et le monde des esprits. Alors, ce monde des esprits, ce sont des entités qui sont en quelque sorte responsables du maintien de l'harmonie dans le monde. Alors, lorsque on fait quelque chose qui désharmonise ce monde, eh bien, les esprits vous envoient des alarmes sous forme de problèmes. Alors quand vous avez beaucoup, beaucoup de problèmes, bah, vous savez que vous avez énervé un esprit, mais vous ne savez pas forcément pourquoi vous avez énervé un esprit. Donc c'est là que le chaman intervient. Il va entrer en transe avec le son d'un tambour et aller interroger directement ce monde des esprits pour savoir quelle est la cause et la raison pour laquelle ils sont en colère. Donc la nuit tombe, le chaman revêt son tambour, j'installe mon matériel pour la BBC et voilà ce qu'on entend. Le problème, c'est que le son de ce tambour fait quelque chose de particulier sur mon corps. Je me mets à trembler. Je fais des mouvements de plus en plus violents. Je me mets à hurler comme un loup. J'ai l'impression que mes mains deviennent des pattes, que mon nez devient une truffe. Je me transforme en loup. Et le pire, c'est que j'ai l'impression que tout ça arrive, mais que je n'en ai absolument plus le contrôle. Le tambour s'arrête, la transe s'arrête, le chaman s'adresse à moi, il a l'air en colère. L'ami mongole qui m'a accompagné traduit et le chaman me dit « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais chaman ?» Alors je dis « Il y a sans doute erreur, là. Je suis juste là pour faire un reportage, il y a une erreur. Vous vous trompez monsieur ?» Et il me dit « Ben non, si le tambour t'a fait cet effet-là, c'est que tu as le don, que tu as accès à la transe, donc à ce monde des esprits. Et eh bien c'est pas compliqué maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Ben tu vas rester 3 ans ici avec nous, à la frontière de la Sibérie, et on va te transmettre cette connaissance. » Alors là pareil, c'est pas ce que j'avais vraiment prévu dans mon plan de carrière. Et je dis, mais si je refuse, c'est pas un problème quand même. Et il me dit, mais tu devrais pas dire ça, parce que si tu es là, c'est pas un hasard. Et il a dû t'arriver des problèmes dans la vie. Je dis, bah oui, mon ami est décédé, 5 ans de cancer, enfin une galère absolue. Il me dit, mais ça c'est rien du tout. Après ce qui va arriver dans ta vie, et ce que va devenir ta vie. Parce que si tu ne deviens pas ce que les esprits ont décidé pour toi, eh bien, tu vas avoir beaucoup plus de problèmes. Alors je me tourne vers Nara, qui me dit, écoute... C'est quand même une connaissance très secrète, c'est super intéressant, elle se transmet que de chaman à chaman. Et puis l'histoire de la vengeance des esprits, là, c'est pas du bidon chez nous. Hein. À ta place, je ferai attention. Donc je finis par demander au chaman s'il n'est pas possible, par hasard, d'y aller plusieurs mois par an. Donc je négocie et il me dit, bah, pas de problème, l'essentiel c'est que tu fasses ce que les esprits ont décidé pour toi. Voilà. Alors c'est comme ça que je me retrouve... Ma chamane formatrice qui est éleveuse de rennes, elle fait partie de l'ethnie des Tsatan, et elle me dit que oui, effectivement, j'ai des pouvoirs, j'ai dit quel pouvoir, si j'avais des pouvoirs, je le saurais. Et elle me dit, mais si, tu vas les découvrir, ces pouvoirs, par la pratique de la transe. Alors, on me fabrique un tambour, un costume, oui, c'est moi, là. Et pendant des années, je retourne chez elle, à la frontière de la Sibérie, vivre dans un tipi, sans eau, sans électricité. On m'apprend les rituels, on m'apprend la pratique de la transe. Et vraiment, je me transforme en loup, je pousse des hurlements de loup, j'ai des visions d'accord, mais je me dis, mais à quoi ça sert ? Alors, je pose tellement de questions qu'elle finit par me donner un surnom qui est Chichi Koshkonok, ce qui veut dire « petit trou du cul ». Alors je reconnais évidemment que c'est mérité. Mais bon, le petit trou du cul va donc continuer à aller plusieurs mois par an et à s'entraîner à la transe. Et finalement, au bout de 8 ans de ce régime, je finis par gagner et mériter le titre de Oudgan, qui est femme chamane là-bas, et par découvrir que la transe, oui, effectivement, ils appellent ça des pouvoirs, mais elle produit des modifications dans mes perceptions. Alors lesquelles, objectivement, après 8 ans? Je perds la notion de l'espace et du temps. Alors maintenant, je viens de voir que c'était la notion de temps psychologique. J'ai une diminution pendant la transe de la perception de la douleur. C'est-à-dire qu'au début, je me donnais tellement de coups de tambour que c'était une catastrophe. Mais je ne le sentais pas pendant la transe. En revanche, en sortant de la transe, oui. Le tambour, il fait 8 kilos hein, à peu près. Il mesure un 80 cm de diamètre. Voilà. Et ce tambour, je peux le tenir à bout de bras pendant des heures, pendant 2-3 heures, sans en ressentir la moindre difficulté. Donc j'ai plus de force que dans un état normal. Et j'ai des visions, j'ai comme accès à d'autres perceptions. C'est comme si, tout à coup, je suis dans un monde noir, j'ai des visions, j'ai des perceptions qui sont différentes de ce que je ressens d'habitude, et j'ai surtout l'impression que j'ai la capacité de percevoir des endroits qui sont disharmonieux. Alors, le plus étonnant, c'est que quand je perçois ces endroits qui sont disharmonieux, je me mets à faire des chants, des gestes, des sons, des langages absolument inconnus, dont j'ai l'impression qu'ils vont apporter à cet espace disharmonieux juste ce qu'ils ont besoin pour retrouver un équilibre. Alors, pourquoi ? Pourquoi tout ça ? Est-ce que la transe modifie le comportement du cerveau et me donne d'autres capacités ? Pourquoi dans cet état j'ai l'impression d'avoir un modèle de perception de la réalité qui est différent ? Je me dis, je vais rencontrer des scientifiques. Alors, le premier à qui je m'adresse et à qui je raconte mon histoire me dit, moi j'ai un copain psychiatre, il est vraiment bien. Vous pouvez aller consulter mademoiselle, ce serait quand même bien. Donc heureusement, ils ne sont pas tous comme ça et je tombe sur Pierre Etévenon qui lui est un ancien directeur de recherche de l'INSERM. Il a étudié à Princeton les effets des substances hallucinogènes sur le champ visuel, donc il connaît bien les états, ce qu'ils appellent les états modifiés de conscience ou de la cognition pour les trans. Et il me dit, bah, écoutez, faites-moi une démonstration. Donc je prends mon tambour, boum boum boum, j'entends trans, je fais le loup, et ce matin, je sors de la trans et il me dit, oui, effectivement, c'est intéressant, mais le problème, c'est votre tambour. Ce qu'on devrait faire pour savoir si la transe modifie le comportement du cerveau, c'est de faire un EEG de votre cerveau. Or, avec un tambour comme ça, dans un laboratoire, vous allez tout nous casser, c'est pas possible. Voilà. Donc vous vous débrouillez, ou vous provoquez la transe par la seule volonté, ou on arrête là les recherches. Alors je sais pas à ce moment-là si c'est possible de faire une transe juste par la volonté. Les chamans en Mongolie n'en ont pas besoin, ça les intéresse pas ce genre de recherche. Alors je me mets par terre chez moi, et je sais que le son du tambour provoque ce tremblement dont je vous ai parlé tout à l'heure, et j'essaie de reproduire ce tremblement. Peut-être, me dis-je, il va me conduire à la transe, et après quelques essais, j'y arrive. Effectivement. Donc, non seulement j'arrive à provoquer la transe par la volonté, mais je peux décider de quand elle va arriver, je peux en sortir, enfin, top. Donc, je retourne voir Pierre Etévenon, et je lui dis, voilà, je suis prête, je lui fais une autre démonstration, et il me dit, alors là, parfait, je vous valide souris de laboratoire, et il me met en contact avec des chercheurs de ses collègues. Alors, ils ne se bousculent pas tous hein, pour étudier mon cerveau. Donc, il y en a un qui va être intéressé par ses recherches, c'est le professeur Florent Ry. Alors, il est au Canada, à Edmonton, dans un hôpital psychiatrique. Voilà, je m'y retrouve. Et lui, alors, est neuropsychiatre, il dirige le service de psychiatrie adulte de l'hôpital et aussi, il est responsable des entrées du laboratoire de recherche. Donc, j'arrive là-bas et il me demande de faire une démonstration, encore une, devant des chercheurs, des neuropsychiatres et psychiatres. Donc, je fais ma démonstration, je me mets par terre. La transe s'arrête et j'entends une voix qui s'élève et qui me dit « Oh, ben quand même, c'est un dédoublement de personnalité violent. » Ah. Et un autre qui dit, mais c'est peut-être même un syndrome de personnalité multiple. Et un autre, ou alors une encéphalite limbique. Et donc il s'approche de moi et il me dit, bah, écoutez, ce qui est très étonnant, c'est que vous avez l'air de le contrôler, mademoiselle, parce que là, vous êtes sortie de cet état, donc ça, c'est très étonnant, donc on a très envie de connaître la suite. Et moi donc Donc j'entre dans le laboratoire de recherche, on met des électrodes sur la tête, tout ça, on fait un électroencéphalogramme de mon cerveau, à l'état de repos, normal, bon, vous voyez à peu près la tête qu'il a. Donc c'est assez calme. Ça, c'est le début de la transe. Donc on voit qu'il se passe quelque chose, effectivement. Et donc voilà, ça c'est moi dans le laboratoire, avec les choses sur la tête. Et bon, juste pour vous donner une idée, je vais vous faire écouter un peu des sons. Donc ça y est, je me suis ridiculisée devant tout le monde. Donc en tout cas, je vous dis pas la tête des assistants quand ils ont entendu ces sons dans le laboratoire de recherche. Alors voilà, le G pendant la transe. Alors vous voyez qu'effectivement, évidemment, il se passe quelque chose d'important. Alors le professeur Florent Rive va étudier ses résultats, évidemment, et il va venir quelques mois plus tard et me dire votre cerveau est tout à fait normal, dans un état normal, donc pas de pathologie, il est sain. En revanche, pendant la transe, alors Pierre Étévenon émet une petite hypothèse, il me dit, moi tes résultats ils me font penser à ceux d'un lapin sous LSD. Donc ça commence mal, mais ça va être pire la suite, c'est que Pierre-Florent Rive a comparé ses résultats de transe à trois groupes contrôles, un souffrant de dépression grave, l'autre de troubles maniaques et un troisième de schizophrénie. Et il me dit, pendant la transe, vos tracés ont des similitudes avec ces trois pathologies. Alors je lui dis les trois à la fois. Il me dit oui, les trois à la fois. Alors c'est déjà rarissime pour un cerveau, mais ce qui lui paraît encore plus impensable et que et pour lui est une découverte déjà majeure sur le fonctionnement du cerveau, c'est qu'on ne pensait pas qu'un cerveau sain, juste par la volonté, puisse provoquer dans le cerveau des états aussi pathologiques et en revenir, comme ça, juste par la volonté et surtout sans en garder aucune séquelle. Donc ces résultats ont été à l'origine d'un premier protocole de recherche sur la transe chamanique mongole étudié par les neurosciences. Alors la question qui s'est posée aussi, c'est si un cerveau peut aller dans ces états et en revenir, c'est qu'il y a un moyen d'en revenir de ces états pathologiques. Donc est-ce que ces techniques de transe pratiquées en Mongolie ne seraient pas un moyen d'apporter une réponse peut-être à ce type de pathologie? Donc évidemment aujourd'hui, il n'y a absolument aucune certitude et aucune réponse à ça. C'est pour ça que ce protocole est en cours. Le professeur Florent Rive va faire des publications scientifiques, évidemment, de ses résultats. Moi, j'ai écrit tout le détail de cette aventure dans mon dernier livre. Mais qu'est-ce que nous dit cette aventure concrètement? Eh bien, qu'est-ce qu'elle m'a appris à moi? Elle m'a appris à traire les rennes, déjà, parce qu'en ayant passé 8 ans avec un éleveur de rennes, c'est déjà toujours ça de pris. Donc, je sais que je peux provoquer la transe par la volonté. Donc, que c'est un potentiel du cerveau auquel nous avons tous sans doute accès et que beaucoup d'entre nous déjà l'ont développé, m'ont pas attendu, hein. Et que les visions que j'ai dans cet état-là, cette autre perception de la réalité, un petit peu comme si elle était augmentée, cette autre façon de percevoir le monde, était juste le résultat d'une modification du comportement de mon cerveau. Donc pourquoi et à quoi ça sert, on n'en sait rien encore, mais ce dont on peut être certain, c'est que ce que nous percevons du monde, ce que nous voyons, n'est pas le monde, mais est vraiment un modèle du monde créé par notre cerveau.
Vivre en commun, l'émission de radio.
Mais c'est très impressionnant, hein, là, vraiment. Ah ouais, je trouve que ça pose plein de questions aussi sur les maladies mentales, en fait, parce que. Moi, ce qui me venait là en écoutant ça, c'est que j'ai une amie qui avait eu une bouffée délirante et qui, j'avais assisté à ça et j'avais dû l'amener à l'hôpital psychiatrique. Et je me rends compte en écoutant ça qu'elle m'a raconté qu'après, elle entendait des voix, d'accord, mais qu'elle avait réussi parce qu'elle ne voulait pas prendre de médicaments. Oui. Parce que justement, elle savait tout ce que ça faisait aussi, les effets secondaires des médicaments, mais qu'elle avait réussi par la force de la volonté à maîtriser un peu les voix. Et mais du coup ça me donne trop envie de lui faire écouter cette conférence, parce que c'est extraordinaire. Elle est peut-être chamane, ouais. Mmh. Ah ouais, c'est incroyable, vraiment.
Si vous voulez plus d'infos sur Corinne Sombrin, vous pouvez aller sur son site internet www.corinne.sombrun.com. Ses publications, ça a été en 2002 Journal d'une apprentie chamane. Elle en parle dans sa conférence.
En 2004, mon initiation chez les chamans. En 2007, les tribulations d'une chamane à Paris. Ensuite, en 2012, elle a écrit Les esprits de la steppe. Elle raconte dans ce livre la vie d'Anketouya, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Donc c'est la chamane qui l'a formée au rituel, donc au rituel des peuples de la steppe mongole. Et elle raconte un peu l'histoire du chamanisme des années 1950 aux années 2010. Et elle raconte aussi les résultats des premiers protocoles de recherche justement sur la transchamanique mongole étudiée par les neurosciences. Et donc ce livre a reçu le prix Terre d'ailleurs en 2013. Et là, son dernier livre, en 2015, ça s'intitule « Sauver la planète ». Et c'est un livre sur Almir Narayamoga Surui, qui est donc l'un des plus grands activistes autochtones d'Amérique du Sud, qui combat contre la déforestation. Donc elle se fait la plume de cet homme. Voilà, donc sûrement dans son destin de chaman, ça doit faire partie de ça, un chaman reporter occidental.
Et pour compléter, si vous voulez en apprendre un peu plus que ce qui est dit dans cette petite conférence de moins d'un quart d'heure, il y avait une excellente émission que j'avais entendue il y a quelques années, en janvier 2013, sur France Culture, dans l'émission Les Racines du Ciel de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar, une émission qui n'existe plus depuis l'année dernière. Mais par contre, toutes les émissions sont encore, et dont celle-là, qui s'appelle Le chamanisme avec Corinne Sombrin, qui est disponible à l'écoute et qui est vraiment sympa. On se sent encore plus dans l'ambiance. Elle raconte les ambiances de là-bas, des yourtes dans la steppe et tout ce qui est lui arrivé. C'est sous forme d'un interview.
Vivre en Comminges, l'émission de radio.
Vivre en Comminges, l'émission de radio.
Sur les ondes.
Vivre en Comminges.
Sur les ondes de Radio Coteau.
104.5 ou
97.7 FM.
Et en direct sur le web.
Vivre en Comminges, l'émission de radio.
Tous les premiers mardis du mois.
À 18h.
Actu local, interview, agenda, musique.
Vous saurez tout sur le Comminges.